du piège social nativiste et de la désillusion européenne. Il est naturel de se demander si une coalition politico-idéologique du même type peut s'étendre à d'autres pays, et en particulier en France, ce qui aurait des conséquences considérables sur l'équilibre politique d'ensemble de l'Union européenne. Si l'on examine la répartition des voix lors des élections italiennes de 2018, avec une division en trois blocs, ou plutôt en quatre blocs, si l'on distingue au sein de l'alliance des partis de droite les composantes Lega et Forza Italia, qui se sont d'ailleurs séparés sur la question de l'alliance avec le M5S, on constate que cette structuration de l'espace idéologique comporte à la fois des points communs importants et des différences significatives avec la répartition en quatre quarts observée lors du premier tour de l'élection présidentielle française de 2017. Dans le contexte français, l'équivalent le plus proche de l'alliance M5S Lega serait un rapprochement entre le mouvement de gauche radical, LFI, la France Insoumise, et le Front National, rebaptisé en 2018 Rassemblement National, RN. À ce stade, une alliance LFI-RN paraît toutefois inenvisageable. L'électorat RN rassemble les électeurs les plus farouchement anti-immigrés, alors que l'électorat LFI, tel qu'il s'est exprimé en 2017, regroupe au contraire les personnes les plus favorables à l'immigration. Les formes de politique sociale et de redistribution riches-pauvres, favorisées par l'électorat LFI, comme par ses cadres, s'inscrivent dans l'histoire de la gauche socialiste et communiste, par exemple avec la référence à l'impôt progressif. Le RN s'appuie sur un corpus idéologique très différent, ce qui rend difficilement concevable la négociation d'une plateforme d'action commune, tout du moins dans un avenir proche. Malgré ses nombreuses tentatives pour se respectabiliser et faire oublier ses origines historiques, vichistes, colonialistes et poujadistes, par exemple en changeant de nom, le RN reste l'héritier d'un mouvement infréquentable pour l'immense majorité des électeurs susceptibles de voter LFI. La rapidité des évolutions observées en Italie invite toutefois à la prudence quant à la multiplicité des trajectoires envisageables à moyen terme. Plusieurs transformations ont rendu possible l'alliance sociale nativiste italienne de 2018. Il faut d'abord insister sur les effets délétères de la lente décomposition politique en cours en Italie depuis l'effondrement en 1992 du système de partis issu de l'après-guerre. Dans un paysage marqué par la remise en cause généralisée des organisations partidaires et la désillusion face aux structures et aux promesses anciennes, les points de repère politico-idéologiques que l'on croyait solidement ancrés volent en éclats. Et des alliances réputées impossibles peuvent devenir acceptables quelques décennies plus tard. Si le cocktail social nativiste italien a pu être envisagé, c'est aussi du fait de la configuration particulière prise par le conflit migratoire en Italie. Par sa situation géographique, le pays s'est retrouvé à accueillir sur ses côtes une grande partie des réfugiés arrivés par la Méditerranée, en provenance à la fois de la Syrie, du Moyen-Orient et d'Afrique via la Libye. Or, les autres pays européens, prompts à donner des leçons de générosité à la terre entière, et notamment à l'Italie, ont refusé pour la plupart d'envisager une répartition des flux de réfugiés sur une base humaine et rationnelle. L'attitude de la France a été de facto particulièrement hypocrite. Les policiers français ont été déployés avec acharnement à la frontière italienne pour y refouler les migrants, et au final, le pays a accueilli depuis 2015 10 fois moins de réfugiés que l'Allemagne. À l'automne 2018, le gouvernement français a également décidé de fermer ses ports aux navires humanitaires refoulés par l'Italie, et a même été jusqu'à refuser d'accorder un pavillon aux navires de l'association SOS Méditerranée, condamnés à rester à quai alors que les bilans de noyés en mer s'alourdissaient. Salvini eut beau jeu de dénoncer l'attitude française, et en particulier celle du jeune président Macron élu en 2017, incarnation parfaite à ses yeux de l'hypocrisie des élites européennes face à la question de l'immigration, ce qui lui permit de mieux justifier la dureté de sa politique anti-migrants face à l'opinion italienne. Il faut noter que cette accusation d'hypocrisie fait partie des postures rhétoriques classiques des mouvements anti-immigrés. Le FN, comme tous les partis de ce type, ont depuis toujours dénoncé la bien-pensance des élites face à l'immigration, toujours prompte à défendre l'ouverture des frontières, mais à condition de ne pas en supporter elles-mêmes les conséquences. Mais ce type de stratégie argumentative, proférée notamment par Jean-Marie et Marine Le Pen en France depuis les années 1980-1990, a généralement du mal à convaincre au-delà des personnes déjà convaincues, tant il paraît clair que ceux qui y ont recours visent surtout à attiser les haines pour mieux se hisser eux-mêmes au pouvoir. Dans le cas de Salvini et du conflit migratoire européen, et notamment franco-italien, cette accusation d'hypocrisie étendue à l'échelle internationale a cependant acquis une plausibilité particulière. Cette configuration spécifique explique en partie la popularité croissante de la Lega en Italie. Cela permet également de mieux comprendre comment le M5S, bien que relativement modéré sur la question des réfugiés, a pu accepter de rentrer dans un accord de gouvernement avec la Lega, sur la base d'un programme violemment anti-réfugiés, mais qui pouvait être présenté comme s'inscrivant dans un même mouvement de dénonciation de l'hypocrisie des élites. Enfin, et peut-être surtout, l'Alliance sociale nativiste italienne s'est appuyée sur une dénonciation générale des règles européennes, et en particulier des règles budgétaires, accusées d'avoir empêché l'Italie d'investir et de se relever de la crise de 2008 et de la purge qui a suivi. De fait, il est peu contestable que la décision européenne de réduire les déficits à marche forcée dans tous les pays de la zone euro, imposée par l'Allemagne et la France en 2011-2012, a eu pour conséquence une rechute désastreuse du niveau d'activité économique, une nouvelle récession et un chômage en forte hausse, notamment en Europe du Sud. Il est tout aussi évident que le conservatisme franco-allemand sur la question d'une dette publique et d'un taux d'intérêt commun au niveau européen, évolution qui serait pourtant cohérente avec la création d'une monnaie unique et permettrait aux pays du sud de la zone euro de se mettre à l'abri des spéculations et des marchés financiers, s'explique pour une large part par la volonté de l'Allemagne et de la France, préférant continuer de bénéficier seuls des taux d'intérêt quasi nuls, quitte à placer le projet européen entre les mains des marchés et des crises financières à venir. Certes, les réponses proposées par la Lega et le M5S sont loin d'être parfaitement construites et cohérentes. Une partie de la Lega semble envisager une sortie de l'euro et un retour à la lire, ce qui pourrait permettre d'accélérer la réduction de la dette publique par le recours modéré à l'inflation. L'opinion italienne reste cependant majoritairement inquiète face aux conséquences largement imprévisibles d'une telle perspective. La plupart des responsables de la Lega et du M5S préfèrent généralement évoquer un changement de règles à l'intérieur de la zone euro et une utilisation différente des pouvoirs de la Banque centrale européenne. Autrement dit, puisque la BCE a imprimé des milliers de milliards d'euros pour sauver les banques, pourquoi ne pourrait-elle pas aider l'Italie en repoussant sa dette à des jours meilleurs? Ces débats, complexes et inédits, sur lesquels je reviendrai plus loin, restent cependant relativement flous et peu développés. Ce qui paraît certain, c'est que ces questions ne pourront être repoussées indéfiniment. L'insatisfaction sociale face à l'Europe ainsi que l'incompréhension profonde face à son incapacité à déployer la même énergie et à mobiliser les mêmes ressources au bénéfice du plus grand nombre que ceux qu'elle semble avoir fait pour sauver le secteur financier ne vont pas disparaître comme par enchantement. Le cas italien montre également que le sentiment de désillusion face à l'Europe, qui relie la Lega et le M5S, peut se révéler un ciment puissant pour constituer des coalitions sociales nativistes. Ce qui rend la Lega et son chef Salvini si dangereux, c'est précisément la capacité à allier le discours nativiste et social, le discours migratoire et celui sur la dette et la finance, tout cela englobé dans la dénonciation d'une même hypocrisie des élites. Un même ciment pourrait à l'avenir servir d'appui à des coalitions sociales nativistes dans d'autres pays, y compris en France, où la déception européenne, par exemple, est très forte au sein des électorats LFI et RN. Le fait que l'Europe est si souvent instrumentalisée pour mener des politiques antisociales, comme on a pu le voir lors de la séquence menant à la crise des Gilets jaunes en 2017-2019, suppression de l'ISF au nom de la concurrence européenne, le tout financé par une hausse de la taxe carbone pesant sur le plus grand nombre, rend malheureusement plausible une telle évolution. Pour peu, par exemple, que le pôle nativiste accepte par opportunisme d'atténuer la violence de son discours anti-immigré et de se concentrer sur les questions sociales et le bras de fer avec les institutions européennes, il n'est pas exclu qu'une coalition sociale nativiste de type Lega M5S puisse un jour arriver au pouvoir en France. Le Parti démocrate, un social-nativisme qui a réussi ? Certains lecteurs, y compris parmi des personnes généralement peu favorables aux thèses anti-immigrés, pourraient d'ailleurs être tentés de regarder d'un œil positif l'arrivée au pouvoir en Europe de mouvements socio-nativistes. Après tout, le Parti démocrate, qui mit en place le New Deal aux États-Unis dans les années 1930 et finit par soutenir les droits civiques dans les années 1960 et par faire élire un président noir en 2008, n'était-il pas à l'origine un parti authentiquement social-nativiste? De fait, après avoir été esclavagiste et après avoir un temps envisagé de renvoyer les esclaves en Afrique, le Parti démocrate s'est reconstruit après la guerre civile sur la base d'une idéologie sociale différentialiste mélangeant une politique de ségrégation très stricte vis-à-vis des Noirs dans le sud du pays et une politique relativement sociale et égalitaire vis-à-vis des Blancs, en particulier des migrants blancs, italiens et irlandais, et plus généralement des classes populaires blanches, ou tout du moins plus sociale et égalitaire que celle du Parti républicain. Ce n'est qu'à partir des années 1940-1950 que le Parti démocrate a sérieusement commencé à envisager de se défaire de la partie ségrégationniste de sa plateforme idéologique, ce qui fut finalement fait dans les années 1960 sous la pression des défenseurs des droits civiques. En suivant cet exemple, on pourrait imaginer une trajectoire où le PiS, Fidesz, la Lega et le Rassemblement national emprunteraient une même voie en Europe au cours des décennies à venir, avec des mesures sociales relativement égalitaires en faveur des Européens de souche, et une politique très dure vis-à-vis des migrants et des immigrés d'origine extra-européenne et de leurs enfants. Dans un second temps, peut-être d'ici un demi-siècle ou davantage, la composante nativiste finirait bien par s'estomper et disparaître, et peut-être même par se transformer en ouverture à la diversité des origines dans un cadre enfin maîtrisé. Une telle vision se heurte cependant à de multiples difficultés. Tout d'abord, avant de devenir le parti du New Deal, puis celui des droits civiques, le Parti démocrate a causé d'énormes dégâts. Des années 1870 aux années 1960, ses représentants et ses administrations policières et juridictionnelles dans les États du Sud ont imposé la ségrégation aux Noirs, ont empêché les enfants d'aller dans les mêmes écoles, ont soutenu ou couvert les lynchages punitifs organisés par le Ku Klux Klan et d'autres organisations de ce type. L'idée selon laquelle cette trajectoire aurait été la seule voie possible permettant de mener au New Deal et aux droits civiques n'a aucun sens. Il existe toujours des alternatives, d'autres trajectoires et bifurcations possibles qui auraient pu se produire en fonction de la capacité de mobilisation des acteurs. Dans le contexte européen actuel, les dégâts potentiels que pourrait causer l'arrivée généralisée au pouvoir des socio-nativistes seraient du même ordre. Ils ont d'ailleurs déjà commencé, d'une part en lançant la chasse aux réfugiés dans les pays où ils sont au pouvoir, et d'autre part en parvenant à imposer aux autres gouvernements européens apeurés des politiques migratoires restrictives, avec au passage des milliers de morts en Méditerranée et des centaines de milliers de personnes bloquées dans des camps en Libye ou en Turquie. Si ces partis politiques avaient les coudées franches, ils pourraient fort bien se lancer dans des mesures d'une grande violence visant les immigrés d'origine extra-européenne installés en Europe et leurs descendants, y compris sous la forme de déchéances rétrospectives de nationalité et d'expulsion, comme cela a d'ailleurs déjà été pratiqué dans l'histoire dans des régimes réputés démocratiques en Europe comme aux États-Unis. Par ailleurs, on peut sérieusement douter de la capacité des mouvements sociaux nativistes actuels à mener une véritable politique de redistribution sociale. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Parti démocrate aux États-Unis a contribué au développement de nouveaux outils de redistribution sociale, avec notamment la mise en place de l'impôt fédéral sur le revenu et sur l'héritage en 1913-1916 et d'un système fédéral d'assurance sociale, retraite, chômage et de salaire minimum dans les années 1930. Sans oublier que la progressivité fiscale sur les plus hauts revenus et patrimoines fut portée au cours de la période 1930-1980 aux États-Unis au plus haut niveau jamais observé dans l'histoire. Si l'on examine les discours et les pratiques au pouvoir du PiS en Pologne, de Fidesz en Hongrie ou de l'alliance M5S Lega, il est frappant de constater qu'ils ne proposent aucune augmentation d'impôts explicite sur les plus riches, ce qui serait pourtant bien utile pour financer leur politique sociale. Dans le cas du PiS, certaines déductions fiscales favorables aux plus hauts revenus ont été réduites, ce qui a de facto conduit à des augmentations d'impôts pour les ménages les plus aisés, mais sans que le nouveau gouvernement polonais ose relever les taux des barèmes d'imposition les concernant. La concurrence interétatique et la montée de l'idéologie marchande nativiste. En ce qui concerne la coalition M5S Lega, il est particulièrement intéressant et révélateur de noter que le M5S a accepté de faire figurer dans le contrat de gouvernement la proposition de flat tax portée par la Lega pendant la campagne des législatives de 2018 et issue de la tradition anti-impôt qui caractérise la Lega depuis ses origines. Si cette mesure était appliquée dans son intégralité, cela impliquerait la mise en place d'un impôt pesant à un même taux proportionnel sur tous les niveaux de revenus, et par conséquent, le démantèlement complet du système d'impôt progressif, c'est-à-dire avec des taux plus élevés sur les revenus importants et plus faibles pour les plus modestes. Cela entraînerait une énorme perte de recettes fiscales au bénéfice des revenus moyens et élevés, qu'il paraît impensable de compenser par une hausse équivalente pesant sur les plus bas revenus, et qui serait donc financé par une fuite en avant vers l'endettement, à la façon des réformes reaganiennes des années 1980. Cette complication sérieuse explique d'ailleurs pourquoi cette partie du programme a été repoussée et ne sera sans doute appliquée qu'au minimum, avec une réduction de la progressivité et non sa suppression complète. Il reste que le fait même que le M5S a pu souscrire à une telle proposition en dit long sur le manque de colonne vertébrale idéologique qui caractérise ce mouvement. On comprend mal comment il est possible de financer un ambitieux revenu de base et de vastes programmes d'investissement public, le tout en supprimant toute forme d'impôt progressif sur les plus hauts revenus. Ce peu d'appétence des socio-nativistes du XXIe siècle pour l'impôt progressif peut s'expliquer de différentes façons. Il est possible d'y voir une volonté de ne surtout pas se rattacher à une tradition passée, associée à la gauche social-démocrate, socialiste, travailliste ou rooseveltienne. Le M5S est séduit par le revenu de base, qui lui semble novateur et moderne, mais pas par l'impôt progressif permettant de le financer, qui lui paraît compliqué et poussif. Il faut également souligner de nouveau à quel point la création monétaire massive mise en œuvre par les banques centrales depuis 2008 a contribué à transformer les représentations. À partir du moment où la BCE a créé des milliers de milliards d'euros pour sauver les banques, il est très difficile pour les socio-nativistes d'admettre qu'il faille en passer par des impôts complexes et potentiellement injustes et contournables pour financer le revenu de base ou les investissements dans l'économie réelle. Cet appel à une création monétaire enfin juste se retrouve en permanence dans les discours du M5S, de la Lega et des autres mouvements socio-nativistes. Tant que les gouvernements européens n'auront pas proposé d'autres façons plus convaincantes de mobiliser des ressources, par exemple au moyen d'impôts européens sur les plus aisés, l'idée d'une fuite en avant vers la dette et la création monétaire comme mode de financement principal des dépenses sociales continuera de susciter une large adhésion au sein de l'électorat social-nativiste et plus généralement au sein de l'opinion publique européenne. Le peu d'appétence des socio-nativistes pour l'impôt progressif est aussi la conséquence de plusieurs décennies de déferlement idéologique anti-impôt et de sanctification du principe de la concurrence absolue de « tous contre tous ». De fait, l'hypercapitalisme de ce début du XXIe siècle se caractérise par une concurrence interétatique exacerbée. La concurrence pour attirer les hauts revenus et les détenteurs de capitaux existait déjà à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais elle n'avait pas la même ampleur, d'une part parce que les moyens de transport et les technologies de l'information n'étaient pas les mêmes, et d'autre part, et surtout, parce que les traités internationaux développés depuis les années 1980-1990 pour organiser la mondialisation ont, de facto, placé ces technologies au service de la protection des privilèges légaux et fiscaux des plus riches, et non pas au service du plus grand nombre. Il pourrait en aller autrement. Par exemple, il est possible et souhaitable de dénoncer les traités organisant la libre circulation des capitaux et de les remplacer par un système régulé fondé sur un cadastre financier public permettant aux pays qui le souhaitent de mettre en place des impôts redistributifs sur les patrimoines transnationaux et leurs revenus. Mais cela exige de se lancer dans des coopérations internationales importantes et des formes ambitieuses de dépassement de l'État-nation, notamment pour les États qui se trouvent être de petite taille à l'échelle mondiale, comme les États européens. Or, il est évident que les partis nativistes et nationalistes sont structurellement mal équipés pour le développement de ce type de dépassement internationaliste. Il paraît donc très peu probable que les mouvements socio-nativistes du début du XXIe siècle se mettent à développer des formes ambitieuses d'impôts progressifs et de redistribution sociale. Le plus vraisemblable est qu'une fois arrivés au pouvoir, qu'ils le souhaitent ou non, ils se retrouvent pris dans l'engrenage de la concurrence fiscale et sociale et de la promotion de leur territoire économique. C'est uniquement par opportunisme que le Rassemblement national en France s'est opposé lors de la crise des Gilets jaunes à la suppression de l'ISF. S'il devait arriver au pouvoir, il est probable qu'il se lancerait dans une trajectoire de dumping fiscal exacerbé pour attirer les investissements et supprimer les impôts des plus riches, d'une part parce que cela correspond mieux à son vieux fonds anti-impôts et à son idéologie de la concurrence entre les peuples, et d'autre part parce que son refus de la coopération internationale et du fédéralisme l'enfermerait dans une logique de dumping. De façon générale, le processus d'éclatement de l'Union européenne, ou tout du moins de renforcement du pouvoir des États et de recentrage du projet européen sur la chasse aux immigrés, que pourrait entraîner l'arrivée au pouvoir des partis nationalistes, conduirait à exacerber les forces de la concurrence fiscale et sociale et la tendance à l'accroissement des inégalités et au repli identitaire.